Bonjour à toutes. Nous avons chanté « Redites-moi l'histoire de l'amour de Jésus ». C'est ce que je vais m'en faire dans la demi-heure qui arrive. Mais cette histoire-là, elle va commencer d'une manière assez surprenante, l'histoire de l'amour de Jésus. Écoutez donc. Épouse une femme prostituée. Aïe. Épouse une femme prostituée. C'est par ces mots surprenants que commence le livre d'Osée dans l'Ancien Testament. L'Éternel dit à Osée, épouse une femme prostituée et aie des enfants de prostitution. Comment est-ce possible de trouver de tels mots dans la bouche de Dieu? Et je vous rassure, si à ce stade vous êtes choqués, c'est normal et tant mieux même. En effet, un tel ordre est choquant, car la Bible, on le sait, est clairement contre l'immoralité sexuelle, donc la prostitution. Alors comment Dieu ose-t-il donner un tel ordre à Osée? Avant d'aller plus loin, pour comprendre cet ordre, et pour comprendre donc le livre d'Osée, il nous faut d'abord être un minimum familier avec les prophètes, et quel était le drôle de métier qu'ils exerçaient, si vous me permettez l'expression. Ceux-ci étaient complètement dévoués à leur message, prêts à faire passer avec leur vie un témoignage vivant, quitte à rejeter les convenances et le politiquement correct. Ils n'hésitaient pas à payer de leur personne. La preuve, vous connaissez Élie, qui a bravé l'opinion de la reine et qui a été banni. Il s'est retrouvé caché, nourri par les corbeaux. Ésaïe, un personnage haut placé, y a priori irréprochable, et qui pourtant n'a pas hésité à se promener tout nu dans les rues de Jérusalem. Le prophète Jérémie, qui s'est résigné à une vie de solitude jusqu'à être jeté dans une citerne boueuse où il a failli mourir. Et enfin, vous connaissez le prophète Ézéchiel, qui lui est resté couché 390 jours sur le côté à raser la moitié de sa barbe et à cuire son pain sur des excréments. Alors oui, prophète était un drôle de métier. Alors de ce point de vue, voir Dieu demander à Osée d'épouser une prostituée, bon, ça devient envisageable, pourquoi pas. Mais ce qui va nous permettre, chers frères et sœurs, de comprendre pourquoi Dieu donne un tel ordre à Osée, c'est surtout la raison qui motive cela. Et nous allons le voir ce matin ensemble en trois parties sur les chapitres 1, 2 et 3 du livre d'Osée. Vous avez le plan détaillé à l'arrière des feuillets. Ma première partie sera en trois points. Le premier point, nous allons voir l'infidélité. Nous allons voir l'infidélité d'Israël. Revenons donc à Osée, un des derniers des petits prophètes de l'Ancien Testament. Nous avons toujours du mal à arriver à les trouver à la fin de l'Ancien Testament. Chapitre 1, verset 2, l'Éternel dit à Osée, « Va donc prendre une femme prostituée et aie des enfants de prostitution. » En effet, le pays d'Israël se prostitue, il abandonne l'Éternel. Osée alla donc prendre Gomère, fille de Diblaïm. Alors, Dieu dit directement, si Dieu demande à cela à Osée, c'est parce que le peuple d'Israël, le pays d'Israël, lui est infidèle et l'abandonne pour d'autres dieux étrangers. Et dans ce sens, on peut dire que oui, le pays se prostitue. Alors, qui trouve-t-on à la tête d'Israël? Qui trouve-t-on en Israël? À la tête donc du peuple, nous trouvons les chefs politiques et nous trouvons les prêtres. Concernant les chefs politiques, ils sont responsables d'une période épouvantable à ce moment-là. Nous sommes à peu près en moins 800 avant Jésus-Christ. C'est une période épouvantable. Pourtant, il n'y a pas de menace extérieure, il n'y a pas d'ennemis, il n'y a pas d'invasion assyrienne ou autre. Mais à l'intérieur, c'est la décadence à l'intérieur du pays. Les rois d'Israël s'assassinent les uns les autres, se succèdent les uns les autres. Lisez, si vous avez le temps, 2 Rois, chapitre 14 à 17, et vous allez voir que près de 6 rois se succèdent et s'assassinent les uns les autres. Et Dieu, donc par la bouche d'Osée, a des mots très durs envers eux, dans les chapitres 4 à 14 d'Osée, que nous ne verrons pas aujourd'hui. Quant aux prêtres, ils sont tellement éloignés de Dieu et de sa loi qu'ils n'ont de prêtre plus que le nom, plus que le titre. Mais ils ne sont plus prêtres. Le constat est sans appel. Osée dénonce pêle-mêle beuverie, privilèges, bêtes grasses, prostitution, idolâtrie envers les dieux étrangers. De nouveau dans les chapitres 4 à 14. Enfin, nous trouvons le peuple simplement, sans repère, sans leader, sans enseignement, et qui s'enfonce alors également dans le péché et l'idolâtrie. Ah, les dieux étrangers sont tellement mieux que Dieu lui-même. L'herbe est toujours plus verte dans le jardin d'à côté. Pire, le peuple attribue aux dieux étrangers la prospérité que l'Éternel leur a justement donnée. Une bénédiction de Dieu se transforme en source d'idolâtrie. Quel comble. Un peu comme si je donne un cadeau à Lucas et Lucas remercie de tout son cœur Bernardo. Une bénédiction se transforme en source d'idolâtrie. Alors le peuple, pourtant prospère, pourtant béni par Dieu, sombre dans l'idolâtrie. Et l'infidélité du peuple est alors comparable, et nous le voyons, à celle d'une épouse infidèle, qui est lasse de son mariage et qui préfère aller voir d'autres hommes, d'autres amants. Des hommes riches qui lui procureront encore plus d'abondance, encore plus de prospérité. La prospérité appelle la prospérité, l'argent appelle l'argent. Vous connaissez la chanson. Alors voilà ce que dit Dieu au chapitre 13. Le peuple s'est rassasié de leur pâturage. Ils se sont rassasiés et leur cœur est devenu orgueilleux. Voilà pourquoi ils m'ont oublié. Alors je fais une petite parenthèse avant d'attaquer notre deuxième point. Une parenthèse, Israël s'est enfoncé dans le péché à un moment où ses frontières étaient en paix, où tout allait bien, si j'ose dire. De même pour nous, quand tout va bien, que faisons-nous? Est-ce que nous en profitons du fait que ça aille bien? Ou alors, faut-il attendre les épreuves, les difficultés, pour se confier et se laisser guider par Dieu? C'est quand on se croit fort qu'on est faible, vous connaissez aussi la chanson. Alors soyons, chers frères et sœurs, soyons vigilants et fidèles en toute occasion. Deuxième point. De par son alliance au Sinaï, de par son mariage, si on reste dans l'image, au Sinaï, le Seigneur est donc l'époux d'un peuple prospère, mais un peuple infidèle et idolâtre. Et Dieu s'oppose à cela. Il condamne cette situation injuste. Il ne peut pas tolérer cela. Et c'est dans ce contexte que Dieu demande à Osée de lui obéir et de payer de sa personne, si j'ose dire. Et alors Osée va aller vers une femme de prostitution et l'épouser. Et la vie d'Osée va illustrer, de manière concrète pour nous, toute la souffrance dans laquelle est Dieu vis-à-vis de l'infidélité d'Israël. Alors, ça pourrait être une belle histoire. Ça pourrait être une belle histoire romantique. Ah, voilà le gentil prophète qui arrache la pauvre créature à sa mauvaise vie, qui l'a conduit chez elle, lui offre un foyer respectable et lui fait des enfants. Et elle, heureuse, était éperdue de reconnaissance à jamais. Ils vécurent heureux et eurent de beaux enfants. Est-ce que c'est ça la fin de l'histoire? Je crois pas. Au contraire, bien au contraire. Et si on continue la lecture du chapitre 1, bien au contraire. Oui, Osée et Gomère ont eu des enfants, mais avec des drôles de prénoms. Le choix du prénom est de coutume un moment privilégié dans la vie d'un couple. D'ailleurs, avec Éléonore, nous sommes en recherche d'un prénom pour le mois de juin, et c'est un moment qui est intéressant. Mais on voit que pour Osée et Gomère, c'est l'inverse de cela. Le Seigneur donne les prénoms des enfants, et on voit que ces prénoms sont des annonces de malheur et des jugements sur Israël. Je lis à partir du verset 3, chapitre 1. Gomère devint enceinte et lui donna un fils. L'Éternel lui dit, « Appelle-le Jisréel, car encore un peu de temps, et j'interviendrai contre la famille de Jéhu à cause du sang versé à Jisréel, et je mettrai fin au royaume de la communauté d'Israël. » Alors, avant d'aller vers le deuxième enfant, il faut une petite explication. Appeler son enfant Jisréel, pour nous, ça veut rien dire. Mais Jisréel, c'est un nom synonyme d'un lieu de mort, de désastre. C'est comme si notre enfant, on allait l'appeler Tchernobyl. On allait l'appeler Hiroshima, Auschwitz. Vous vous rendez compte la violence de ce prénom, la violence du jugement qu'il y a derrière? Gomer fut de nouveau enceinte et mit cette fois-ci au monde une fille. L'Éternel dit à Osée, appelle-la Lo Ruhama, ce qui veut dire je ne continuerai plus à avoir compassion de la communauté d'Israël, je ne lui pardonnerai plus. Gomer sevra Lo Ruhama et elle devint enceinte et mit au monde un fils. L'Éternel dit, appelle-le Lo Ami, ce qui veut dire vous n'êtes pas mon peuple et moi je ne suis pas votre Dieu. Deuxième explication, ces dernières paroles, « Vous n'êtes pas mon peuple et je ne suis pas votre Dieu », ce sont des paroles terribles, car elles sont le contraire exact de la formule, j'ai envie de dire magique, de la formule que Dieu utilise à chaque fois qu'il scelle une de ses alliances. « Vous êtes mon peuple, je suis votre Dieu ». On voit ça en Exode 6, en Jérémie 11, etc. Et là, c'est le contraire exact des paroles terribles. Alors, si on continue... On pourrait continuer notre lecture avec le début du chapitre 2, et on voit qu'Osée souffre de sa situation conjugale, malheureuse avec Gomer. Mais de même, Dieu souffre d'y souffrir de l'infidélité d'Israël. Ce peuple avec qui pourtant il a conclu une alliance, ce peuple avec qui pourtant il est marié. Et cette alliance semble brisée à la lecture des dernières paroles que nous avons lues. « Vous n'êtes pas mon peuple, je ne suis pas votre Dieu. » Quel jugement terrible! Mais Dieu condamne à juste titre l'infidélité de son peuple. Il ne juge pas, il ne souffre pas en silence, mais il juge et condamne à juste titre. Et encore une fois, lisez les chapitres 4 à 14, c'est des chapitres très durs et qui contiennent de nombreuses catastrophes que le peuple va s'attirer. En vrac, on peut citer la tempête qui dévaste, chapitre 8, la plante vénéneuse, chapitre 10, les attaques de la panthère et de l'ours, chapitre 13, la carie et la teigne. Chapitre 5. Dieu condamne à la mesure de sa souffrance face à notre péché. Et cela est violent. D'ailleurs, parenthèse également, quelques dizaines d'années plus tard, les prophéties d'Osée se sont malheureusement accomplies, j'ai envie de dire. La ville de Samarie dans le nord d'Israël a chuté et tout le peuple a été déporté en Assyrie. Et les 10 tribus d'Israël ont été dispersées, diluées dans tout l'empire d'Assyrie. Nous sommes alors en moins 722 avant Jésus-Christ. Donc si Dieu souffre de notre infidélité, si Dieu condamne avec une si grande fermeté, une fermeté qui nous dérange, peut-être qui nous choque, mais c'est justement parce que Dieu aime, parce que Dieu aime son peuple, nous allons le voir. Et parce qu'il l'aime, il lui offre une espérance, nous allons le voir également dans notre deuxième partie. Mais avant tout, troisième point, il convient de dire que le livre d'Osée parle autant de l'infidélité d'Israël que de la nôtre. Que de la nôtre. Tout comme Dieu a choisi le peuple d'Israël et allé le chercher en Égypte, Dieu nous a créés, nous a choisis et est allé nous chercher. Mais tout comme Israël s'est éloigné de Dieu, nous avons nous-mêmes fait de même, préférant suivre nos désirs plutôt que ses voies. Alors, nous livrons-nous exactement au même péché qu'Israël à l'époque? Peut-être, peut-être pas, je ne vous connais pas, mais sommes-nous, quoi qu'il en soit, meilleurs? Sommes-nous meilleurs qu'eux? Non? Non? Regardez le verset 2 du chapitre 10. Osée fait le reproche. Votre cœur est partagé. Votre cœur est partagé. Qui d'entre nous peut prétendre l'inverse? Qui d'entre nous peut prétendre l'inverse? Qui d'entre nous peut prétendre avoir un cœur totalement à Dieu et non un cœur partagé? Il n'y a pas de juste, pas même un seul, aucun intelligent, aucun ne cherche Dieu, tous se sont détournés. Il n'y en a aucun qui fasse le bien, pas même un seul. Ce sont des paroles de David. Au psaume 14, où il parle du peuple juif, mais c'est cette affirmation, cette citation, l'apôtre Paul la reprend en Romains 3, en parlant des juifs et des non-juifs, de tout le monde. Et je peux me permettre d'étendre en disant, en parlant des petits et des grands, des riches et des pauvres, des hommes et des femmes, des bien-pensants, des terroristes, des bouddhistes, des chrétiens ou des athées, des noirs, des blancs, je ne sais quoi. Des Gallois ou des Ch'tis, il n'y a pas un seul. Pas un seul. Ni en Israël à l'époque, ni parmi nous, aujourd'hui. Alors, le livre d'Osée parle autant de l'infidélité d'Israël que de la nôtre. Mais si Dieu, encore une fois, souffre et condamne ainsi, avec une si grande fermeté, c'est justement parce qu'il aime son peuple, qu'il nous aime. Et pour nous le montrer, pour nous le démontrer, Dieu nous offre une espérance. Il nous offre une espérance, c'est notre deuxième partie. La deuxième partie sera en deux points. Premièrement, autant Dieu a des mots très durs par la bouche d'Osée dans le début du chapitre 2, des mots très très durs, autant Dieu dit instantanément dans la suite du chapitre 2 que ce jugement et cette condamnation terrible ne sont pas sa volonté ultime, sa volonté finale. Sa volonté ultime consiste à faire revenir à lui ce peuple. Dieu ne condamne pas pour le plaisir de condamner, c'est ce que je veux dire. Mais juste après avoir condamné et dénoncé l'infidélité du peuple et annoncé tous les malheurs qui lui arriveront, début du chapitre 2, fin du chapitre 2, Dieu déclare dans la foulée, à son épouse, à son peuple, je lis des versets 16 à 25 dans le chapitre 2, « C'est pourquoi je veux la séduire. Je veux la séduire et la conduire au désert. » Et je parlerai à son cœur. Là, je lui donnerai ses vignes et je ferai de la vallée d'Achor une porte d'espérance. Là, elle chantera comme moi à l'époque de sa jeunesse, comme le jour où elle est sortie d'Égypte. Ce jour-là, déclare l'Éternel, tu m'appelleras mon mari et non plus mon maître. J'enlèverai de sa bouche les noms des dieux étrangers, si bien qu'on ne se souviendra même plus d'eux. Et je te fiancerai à moi pour toujours. Je te fiancerai à moi par la justice, la droiture, la bonté, la compassion. Et je te fiancerai à moi par la fidélité, et tu connaîtras alors l'Éternel. Je planterai l'oruche à moi pour moi dans le pays, et j'aurai compassion d'elle. Et je dirai à l'eau amie, tu es mon peuple. Et il répondra, tu es mon Dieu. Alors au-delà du jugement, Dieu affirme clairement sa volonté ultime, celle de rappeler à lui, de faire revenir ce peuple et de rétablir une relation d'amour, non plus de maître à esclave, mais de mari à femme. L'alliance sera rétablie. Et vous aurez d'ailleurs avec moi reconnu à la toute fin de ma lecture la formule des alliances. Tu es mon peuple. Et ils répondront, tu es mon Dieu. Alors l'alliance de Dieu est encore là. Elle est encore vivante. Non grâce à nous, mais grâce à Dieu. Romains 11 nous dit, Dieu aurait-il rejeté son peuple? Certainement pas. Romains 11 toujours, en effet, les dons et l'appel de Dieu sont irrévocables. Deuxième point, Dieu, même dans les moments les plus difficiles, même les moments les plus sombres, tient toujours à offrir, donc je l'ai dit, une espérance et à rappeler quelle est sa volonté finale. Mais est-ce pour autant que cette espérance annule le jugement qui a été dit? Non. Non. Certainement pas. Et encore une fois, les chapitres 4 à 14 contiennent tous les détails des difficultés et des catastrophes qui vont arriver aux tribus d'Israël. Et les tribus d'Israël, je vous l'ai dit, ont bel et bien fini par être déportées en Assyrie. Et dans un contexte prophétique assez similaire, Dieu dira par la bouche de Jérémie, je connais les projets que j'ai formés pour vous, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et une espérance. Est-ce pour autant que le livre de Jérémie ne contient que des bonnes nouvelles? Est-ce pour autant que le livre de Jérémie contient que des belles promesses? Non. Non. Ainsi, l'espérance qu'offre Dieu n'annule pas sa fermeté face à notre péché. Et c'est une vision bien humaine que de s'imaginer ces deux aspects incompatibles l'un envers l'autre. Et au contraire, si ces deux aspects, fermeté et espérance, sont pleinement compatibles, nous allons le voir dans la troisième partie, c'est justement qu'ils s'appuient tous deux sur le même attribut de Dieu, qui est l'amour. Nous allons le voir, c'est notre troisième et dernière partie. Troisième et dernière partie, je lis. On va lire le chapitre 3 en entier, il fait 5 versets. Prenez pas peur. Je lis à partir du verset 1 donc. L'Éternel m'a dit, « Va encore aimer une femme aimée d'un amant et adultère. Aime-la comme l'Éternel aime les Israélites, alors que ils se tournent vers d'autres dieux et aiment les gâteaux de raisin. » Alors je l'ai acheté pour 15 pièces d'argent et 330 litres d'orge. Je lui ai dit, « Tu resteras longtemps à moi, sans te livrer à la prostitution, ni appartenir à aucun homme, et j'agirai de même envers toi. » En effet, les Israélites resteront longtemps sans roi, sans chef, sans sacrifice, sans statue, sans éphod, sans théraphime. Et après cela, les Israélites reviendront. Ils rechercheront l'Éternel, leur Dieu, et David, leur roi, et ils retourneront en tremblant vers l'Éternel, vers sa bienveillance dans l'avenir. Premier point, nous voyons un nouveau changement de situation conjugale pour Osée. Alors qu'il vient tout juste de répudier Gomer, qu'il vient tout juste de la répudier au chapitre 2, chapitre 3, Osée doit de nouveau aimer une femme aimée d'un amant et une femme adultère. Cette femme, est-ce de nouveau Gomer, la même qu'au chapitre 1 ou 2 ? Est-ce une autre femme adultère ? Le texte ne nous le dit pas en détail. Un indice, on peut extrapoler, mais est-ce que le peuple de la Nouvelle Alliance est exactement le même que celui de l'Ancienne Alliance? Oui et non, nous répond Romains 11, avec l'image de l'olivier greffé. Mais là n'est pas notre sujet. Osée doit donc non seulement épouser cette seconde femme adultère, mais également l'aimer, également la racheter. Aime-la comme l'Éternel aime les Israélites, eux qui se tournent vers d'autres dieux. De nouveau, Osée va ressentir personnellement toute la douleur, toute la difficulté d'aimer quelqu'un d'infidèle et d'adultère. Cela nous fait penser aux paroles de Jésus dans Luc 6. Si vous aimez seulement ceux qui vous aiment, quelle reconnaissance en avez-vous ? En effet, les pécheurs aime ceux qui les aiment. Mais si vous faites du bien seulement à ceux qui vous font du bien, quelle estime en avez-vous? Les pécheurs font de même. Soyez donc plein de compassion, tout comme votre Père est plein de compassion. De même que Jésus nous invite à prendre exemple sur notre Père plein de compassion, Osée doit aimer et racheter cette femme adultère à l'exemple de Dieu qui va faire de même avec son peuple, comme il l'a annoncé au chapitre 2. À l'exemple du Père. Alors que Dieu pouvait justement, à juste titre, j'ai envie de dire, oublier son peuple infidèle, son épouse, au contraire, on voit qu'il a le souci de la rechercher, de l'attirer, de la racheter et de payer ce qu'il faut. 15 pièces d'argent et 330 litre d'orge, pour Osée en tout cas. Mais par contre, Dieu s'attend à ce qu'une fois son épouse revenue à lui, elle lui soit désormais fidèle. Dieu, en toutes circonstances, continue d'aimer ses élus. En toutes circonstances, il continue d'aimer ses élus. Et il les recherche, il les attire à lui, et il les rachète, même après la plus horrible rébellion, même après le pire châtiment. Et dans ce sens-là, son amour est plus fort que notre infidélité. Notre amour est plus fort que notre infidélité. Dieu annonce alors un exil et un retour qui, à la longue, sera bénéfique pour Israël. Verset 5, cela inaugurera un temps où les rescapés rechercheront l'Éternel, leur Dieu, et David, leur roi. Ils retourneront en tremblant vers l'Éternel et sa bienveillance dans l'avenir. Alors en exil, le peuple se retrouvera en effet privé de ce qui lui était cher. Ses rois, ses prêtres, son bétail, sa prospérité, son autonomie. Alors le peuple devra rester longtemps à Dieu, sans se livrer à la prostitution, J'en profite pour faire une parenthèse. Nous aussi, Dieu peut nous priver de ce qui aurait trop d'importance dans notre vie. Nous mettre en exil pour nous priver de quelque chose sur lequel on aurait trop construit nos vies. Y a-t-il quelque chose dans ma vie, dans ta vie, qui prend trop de place et qui a trop d'importance? Et dans ce sens où Israël, en exil, va se retrouver privé de ce qui lui était cher, et il va devoir le considérer comme une perte, on comprend pourquoi le jugement de Dieu des chapitres 1 et 2 était en fait une correction motivée par l'amour. Pour réapprendre à son peuple à lui être fidèle. Pour réapprendre à son peuple à lui être fidèle. Et c'est là qu'on comprend que derrière un jugement ferme, se cache un amour total, exclusif et inconditionnel, qui recherche la sanctification et le progrès du peuple en toute occasion. Et cela nous fait penser aux paroles de Jacques, qui dit « Mes frères et sœurs, considérez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que la mise à l'épreuve de votre foi produit la persévérance. » Et il faut que la persévérance accomplisse parfaitement sa tâche, afin que vous soyez parfaitement qualifiés et qu'il ne vous manque rien. Et dans son sens-là, on comprend que les épreuves sont là pour notre sanctification, pour notre progrès, pour nous réapprendre à être fidèles à Dieu. Cela est valable pour Israël à l'époque, et cela est valable pour nous aujourd'hui. Troisième et dernier point, si Dieu, nous l'avons vu, souffre et condamne ainsi, si Dieu offre une espérance malgré tout, c'est justement parce qu'il aime. C'est justement qu'il aime son peuple et qu'il nous aime. Mais non d'un amour tiède, non d'un amour timide, non d'un amour bisounours, mais d'un amour total, exclusif, jaloux, entier, inconditionnel, etc. Et je pourrais même dire qu'à la lecture d'Osée, on peut dire que l'amour de Dieu est une chose terrible. Le livre d'Osée est à la fois un des livres avec les jugements les plus sévères, mais en même temps un des livres qui nous parle le mieux et nous illustre le mieux toute l'étendue de l'amour de Dieu. L'amour qui le conduit à se choisir un peuple et à le libérer d'Égypte, chapitre 11. L'amour qui le rend ferme face au péché et à l'infidélité, chapitre 2. L'amour qui le pousse à châtier son peuple pour pouvoir mieux le rappeler à lui, chapitre 2 aussi. L'amour qui le conduit à offrir immédiatement et instantanément une espérance malgré tout, chapitre 2, la deuxième moitié. L'amour qui le conduit à limiter ce châtiment et à pardonner, chapitre 11. L'amour qui le motive à guérir Israël, chapitre 14. Et l'amour qui le conduit à surpasser notre infidélité, chapitre 2. Alors pour rester dans le thème conjugal qu'on a commencé, Dieu nous aime dans les fiançailles les plus heureuses comme dans l'adultère le plus complet. Dieu nous aime totalement et inconditionnellement. Et quel que soit ce que vous pouvez vivre actuellement, chers frères et sœurs, les joies, les peines, les réussites, les échecs, écoutez, osez. Écoutez Dieu et sachez qu'il vous aime totalement et inconditionnellement. J'en arrive à ma conclusion. Les trois parties précédentes nous ont montré comment jugement, espérance et amour sont trois choses complémentaires et indissociables. Dieu condamne avec autant de fermeté et de sévérité qu'il souffre et qu'il ne peut tolérer notre infidélité. Mais Dieu nous offre instantanément une espérance avec des projets de paix et non de malheur. Et quel est le point commun dans tout ça ? L'amour. L'amour plus fort que notre infidélité. L'amour plus fort que notre infidélité. Et pour nous le faire comprendre, pour mieux nous instruire, Dieu a illustré sa situation, a transposé sa situation au couple d'Osée, qui était une image bien réelle de sa situation envers Israël. Et ce qu'il s'est passé avec Israël est également une image bien réelle du salut en Jésus-Christ qui est le nôtre. En effet, Dieu, lui qui nous a créés, qui nous a choisis, qui est venu nous chercher, souffre et ne peut tolérer notre infidélité. Il ne peut s'en satisfaire. Mais Dieu est amour. Nous l'avons vu la semaine dernière, 1 Jean 4:8. Et il nous aime trop pour nous abandonner. Dieu a alors pris l'initiative de nous sauver, de nous racheter, de payer le prix qu'il faut. Par la mort et la résurrection de Jésus-Christ, nous aurons tout à l'heure l'occasion de nous en rappeler avec la Sainte Cène. Et l'amour de Dieu, manifesté en Jésus-Christ, de nouveau 1 Jean 4, l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, cet amour-là est plus fort que notre infidélité. Cet amour-là est plus fort que notre infidélité. Et encore aujourd'hui, l'œuvre de Dieu n'est pas finie. Et Dieu recherche notre progrès, notre sanctification. Et s'il faut nous priver de quelque chose qui nous serait trop cher, quelque chose qui nous éloignerait de lui, alors il le fait, souverainement. Il le fait toujours dans le but de nous rappeler à lui, de nous réapprendre à compter sur lui. Et il le fait toujours motivé par son amour. Un amour total, un amour exclusif et inconditionnel. Chers frères et sœurs, à nous désormais également en retour de lui être fidèles et d'avoir pour lui aussi un amour total, exclusif et inconditionnel. Amen. Éternel, nous nous remettons à toi. Nous nous remettons à toi dans notre faiblesse, notre incapacité de se tenir face à toi, Seigneur, si tu ne nous avais pas sauvés, si tu ne nous avais pas aimés, rachetés, Seigneur. Seigneur, nous confessons effectivement notre faiblesse, notre rébellion, notre infidélité, Seigneur. Et nous savons que tu es ferme face à cela, sévère. Mais nous savons également l'espérance que tu nous offres en retour, motivée par l'amour que tu as manifesté en Jésus-Christ pour nous. Seigneur, nous te bénissons pour cela et nous te demandons de nous apprendre à être fidèles en toute occasion, à construire nos vies seulement sur toi et sur rien d'autre. Viens à notre secours encore aujourd'hui, Seigneur, dans notre marche avec toi et apprends-nous à t'aimer comme tu le mérites. Amen.